No French contest 2016, level 5. Time 1 hour. Number of questions 60. General instructions. Indicate all your answers to questions by clicking the circle next to your preferred answer. Your teacher may provide you with one sheet of paper for notes or scratch work. No other paper may be used for this. No credit will be given for answers not submitted online. Do not minimize or close the browser window for any reason. If you close the browser window without saving, your work may be lost. If content restarts from the beginning, your results may not count for national rankings. There is no penalty for guessing, so it will be to your advantage to answer every question, even though you may not be sure that your answer is correct. Use your time effectively, working as rapidly as you can without losing accuracy. Do not waste time on questions that are too difficult. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later if you have time. Ready? Let's begin. Listening comprehension. You will now hear an interview broadcast on RTL. The audio lasts 1 minute 40 seconds. You will have 30 seconds to read the questions below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with 1 minute in between. You will then have more time to answer the questions after the repeat of the audio. Select the most appropriate answer from the four choices. Indicate your choice by clicking the circle next to your choice. You may take notes while listening.
Vous écoutez RTL. C'est notre planète sur RTL.
Avec vous Virginie Garin, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Virginie, fini les camions poubelles, le bruit le matin, les odeurs pour ramasser les ordures. Certaines villes s'équipent en effet de systèmes de collecte pneumatique. Les sacs poubelles sont aspirés sous terre. Des habitants d'un nouveau quartier d'ici les Moulineaux, près de Paris, testent ce système, Virginie, depuis quoi? Depuis un mois.
Alors ils descendent leurs poubelles comme avant au pied d'immeuble, ils les jettent dans une borne. D'un côté les sacs de déchets recyclables, de l'autre les ordures classiques. La borne, qui est une espèce de trappe, se ferme hermétiquement. Elle est reliée à un réseau de tuyaux souterrains et les ordures sont aspirées. Plus besoin de camions donc pour venir les ramasser tous les matins. Elles voyagent à 70 km/h dans ces grands tuyaux. Le système a été mis en place par Veolia. Le groupe en a installé un autre à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Il fonctionne depuis un an et demi et ça marche. L'aspirateur très puissant peut récupérer des sacs poubelles qui sont à près de 2 km. Et la collecte pneumatique a fait ses preuves, surtout dans les pays du nord de l'Europe. Elle commence à se développer en France. À Paris, un premier quartier va être inauguré à l'automne, celui des Batignolles. Alors il faut quand même que ce soit des quartiers soit neufs, soit où on peut faire de gros travaux, car il faut installer sous terre des kilomètres de tuyaux de 50 cm de diamètre. Il y a un investissement au départ, mais ensuite, plus besoin de camions, plus de bruit, plus besoin non plus de local à poubelle dans l'immeuble, donc il n'y a plus de frais de nettoyage, et ça baisse les charges des copropriétaires. Enfin, qui dit moins de camions, dit aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est plus écologique.
Merci beaucoup Virginie Garin.
Vous écoutez RTL. C'est notre planète sur RTL.
Avec vous Virginie Garin, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Virginie, fini les camions poubelles, le bruit le matin, les odeurs pour ramasser des ordures. Certaines villes s'équipent en effet de systèmes de collecte pneumatique. Les sacs poubelles sont aspirés sous terre. Des habitants d'un nouveau quartier d'Issy-les-Moulineaux, près de Paris, testent ce système, Virginie, depuis quoi? Depuis un mois.
Alors ils descendent leurs poubelles comme avant au pied de l'immeuble, ils les jettent dans une borne. D'un côté les sacs de déchets recyclables, de l'autre les ordures classiques. La borne, qui est une espèce de trappe, se ferme hermétiquement. Elle est reliée à un réseau de tuyaux souterrains et les ordures sont aspirées. Plus besoin de camions donc pour venir les ramasser tous les matins. Elles voyagent à 70 km/h dans ces grands tuyaux. Le système a été mis en place par Veolia. Le groupe en a installé un autre à Romainville, en Seine-Saint-Denis. Il fonctionne depuis un an et demi et ça marche. L'aspirateur très puissant peut récupérer des sacs poubelles qui sont à près de 2 km et la collecte pneumatique a fait ses preuves surtout dans les pays du nord de l'Europe. Elle commence à se développer en France. À Paris, un premier quartier va être inauguré à l'automne, celui des Batignolles. Alors il faut quand même que ce soit des quartiers soit neufs, soit où on peut faire de gros travaux, car il faut installer sous terre des kilomètres de tuyaux de 50 cm de diamètre. Il y a un investissement au départ, mais ensuite plus besoin de camions, plus de bruit, plus besoin non plus de local à poubelle dans l'immeuble, donc il n'y a plus de frais de nettoyage et ça baisse les charges des copropriétaires. Enfin, qui dit moins de camions dit aussi moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc c'est plus écologique.
Merci beaucoup Virginie Garin.
Listening comprehension. You will now hear an interview. This interview was broadcast on RTL, a French radio station. The interview lasts 2 minutes 22 seconds. You will have 30 seconds to read the questions below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with 1 minute in between. You will then have more time to answer the questions after the repeat of the audio. Select the most appropriate answer from the four choices. Indicate your choice by clicking on the circle next to your choice. You may take notes while listening.
Oui, le célèbre chef au chapeau noir vient de réaliser son rêve en créant sur plusieurs hectares un véritable hameau savoyard avec des chalets, une chapelle, un four à pain, un jardin botanique où pousseront ses plantes aromatiques. Tout ça au col de la Croix-Frie, à 1500 mètres d'altitude, au cœur des alpages.
Bonjour, je m'appelle Marc Vera, je suis cuisinier. Je suis sur la terre de mes parents, j'habite à la Croix-Frie, dans un lieu magique. Et c'est là qu'on a installé notre nouveau restaurant. Et c'est un lieu complètement magique, face au Mont Blanc, on est devant le Charvin, on a un environnement assez exceptionnel.
Après un grave accident de ski, Marc Vera avait stoppé toutes ses activités en 2009, cédé ses deux restaurants d'Annecy et de Megève. C'est donc chez lui, à Manigaud, qu'il fait aujourd'hui son grand retour.
Je suis venu ici à la Croix-Frie me ressourcer. Vous savez, j'ai fait comme les saumons. Je remonte à l'origine. Simplement, c'est un lieu magique. Moi, c'est un lieu où j'ai vécu avec mes parents, mes grands-parents, et j'ai voulu revenir aux sources. Et aux sources, surtout, de la nature, de l'existentiel. C'est la nature, c'est le respect de la terre, c'est le respect de l'environnement. On veut créer un restaurant où l'on vit en autarcie, c'est-à-dire on a des jardins, nos légumes, nos animaux, en prenant soin de l'environnement, c'est-à-dire en amenant la nature dans l'assiette.
Le restaurant sera dans ce chalet reconstitué, chalet savoyard.
Oui, ben bien sûr. Mais on a amené pas mal de modernisme quand même, parce que j'aime beaucoup l'inox, le verre, cette pointe de modernisme à l'intérieur. On a une vue de fou, quoi. On a une vue de rêve. On a là-bas au fond Val d'Isère, Courchevel, on voit tout. Hein. Là, vous avez le Charvin, vous avez l'Étale, la pointe Percée, le Mont Blanc. Enfin, tout y est, quoi. Tout y est pour être heureux.
Ah oui, tout y est. Dites-moi, Serge, à 63 ans, Marc Véran se lance quand même pas dans une nouvelle course aux étoiles avec son nouveau restaurant.
Non, il veut avant tout accueillir ses convives comme des amis, à l'image d'une table d'hôte.
Surtout le bonheur de faire plaisir aux autres. Voilà, la convivialité, ça existe. J'ai envie de dire aux gens qui viennent chez nous, qui viennent déguster, mes copains, tout le monde, je prends enfin le temps de leur dire je vous aime. Et j'ai envie de vous le prouver à travers la nourriture. Je l'ai fait, jamais fait ça. J'avais la tête dans le guidon, 2 fois 3 étoiles, 2 fois 20 sur 20, et on y va, on y va, on y va. Mais on va où? On va nulle part.
Oui, le célèbre chef au chapeau noir vient de réaliser son rêve en créant sur plusieurs hectares un véritable hameau savoyard avec des chalets, une chapelle, un four à pain, un jardin botanique où pousseront ses plantes aromatiques. Tout ça au col de la Croix-Frie, à 1500 mètres d'altitude, au cœur des alpages.
Bonjour, je m'appelle Marc Véra, je suis cuisinier. Je suis sur la terre de mes parents, j'habite à la Croix-Frie, dans un lieu magique. Et c'est là qu'on a installé notre nouveau restaurant. Et c'est un lieu complètement magique, face au Mont Blanc, on est devant le Charvin, on a un environnement assez exceptionnel.
Après un grave accident de ski, Marc Véra avait stoppé toutes ses activités en 2009, cédé ses 2 restaurants d'Annecy et de Megève. C'est donc chez lui, à Manigaud, qu'il fait aujourd'hui son grand retour.
Je suis venu ici à la Croix-Frie me ressourcer. Vous savez, j'ai fait comme les saumons. Je remonte à l'origine. Simplement, c'est un lieu magique. Moi, c'est un lieu où j'ai vécu avec mes parents, mes grands-parents, et j'ai voulu revenir aux sources. Et aux sources, surtout, de la nature, de l'existentiel. C'est la nature, c'est le respect de la terre, c'est le respect de l'environnement. On veut créer un restaurant où l'on vit en autarcie, c'est-à-dire on a des jardins, nos légumes, nos animaux, en prenant soin de l'environnement, c'est-à-dire en amenant la nature dans l'assiette.
Le restaurant sera dans ce chalet reconstitué, chalet savoyard.
Oui, ben bien sûr. Mais on a amené pas mal de modernisme quand même, parce que j'aime beaucoup l'inox, le verre, cette pointe de modernisme à l'intérieur. On a une vue de fou, quoi. On a une vue de rêve. On a là-bas au fond Val d'Isère, Courchevel, on voit tout. Hein. Là, vous avez le Charvin, vous avez l'Étale, la pointe Percée, le Mont Blanc. Enfin, tout y est, quoi. Tout y est pour être heureux.
Ah oui, tout y est. Dites-moi, Serge, à 63 ans, Marc Véran se lance quand même pas dans une nouvelle course aux étoiles avec son nouveau restaurant.
Non, il veut avant tout accueillir ses convives comme des amis, à l'image d'une table d'hôte.
Surtout le bonheur de faire plaisir aux autres. Voilà, la convivialité, ça existe. J'ai envie de dire aux gens qui viennent chez nous, qui viennent déguster, mes copains, tout le monde, je prends enfin le temps de leur dire je vous aime. Et j'ai envie de vous le prouver à travers la nourriture. Je l'ai fait, jamais fait ça. J'avais la tête dans le guidon, 2 fois 3 étoiles, 2 fois 20 sur 20, et on y va, on y va, on y va. Mais on va où? On va nulle part.
Listening comprehension. You will now hear an interview. This interview was broadcast on Europe One, a French radio station. The interview lasts 2 minutes, 20 seconds, and you will have 30 seconds to read the question below before hearing the interview. The audio will be repeated twice with 1 minute in between. You will then have more time to answer the questions after the repeat of the audio. Select the most appropriate answer from the four choices. Indicate your choice by clicking the circle next to your choice. You may take notes while listening.
Et la santé, c'est avec vous, docteur Jean-François Lemoine. Alors, lundi, ce sera la journée mondiale de la télévision. Et c'est aussi l'un des thèmes de votre émission Pourquoi Docteur, ce dimanche sur Europe 1 à 13h, avec cette question, donc la télé, ami ou ennemi des médecins. Et vous avez des éléments de réponse, hein, Jean-François.
Oui, la plupart des intellectuels ont tranché depuis longtemps, d'ailleurs. La télévision abrutit les masses, un discours très à la mode qui ne prend en compte que le contenu des émissions et le temps passé devant l'écran. Certes, nous consacrons en moyenne 3h23 par jour à la télé. Ce chiffre et celui de 2010, il est en augmentation de 7 minutes par rapport à 2009, et c'est beaucoup moins que les Américains, dont effectivement on ne peut pas dire que la culture de masse soit un modèle.
Alors, un monde sans télé, est-ce que c'est possible? Certains ont d'ailleurs déjà essayé, hein?
Oui, des aventuriers du monde moderne ont tenté le sevrage cathodique, c'est le cas notamment d'une école strasbourgeoise. Mmh. 250 enfants étaient les cobayes volontaires d'une expérience, 10 jours sans télé. Ils ont tenu le coup, quelques-uns seulement auraient craqué alors qu'ils allaient franchir la ligne d'arrivée. Mmh. Ils ont regardé leur feuilleton favori. Et si l'on en croit leurs parents, ils auraient davantage dormi et selon leurs enseignants, il y aurait eu un peu moins de fautes dans les dictées.
Ah oui. Alors j'imagine qu'au bout de 10 jours, les habitudes ont repris leurs droits, hein.
Oui, ils ne font pas partie des 2 à 3% de gens qui n'ont pas de télé chez eux, mais toutes les expériences de sevrage montrent que ces actions radicales permettent d'ouvrir les yeux des enfants et des parents sur des moyens de s'occuper différemment. En fait, la télé et la diététique, même combat. Un régime trop strict, c'est impossible à tenir. Mmh. Donc, il faut apprendre à avoir une consommation de télé légère et variée.
Et Jean-François, on dit aussi que la télévision serait dangereuse carrément pour la santé.
Selon une étude australienne publiée dans le British Journal of Sport Médecine. Chaque heure passée devant le petit écran, écoutez bien, réduit notre espérance de vie de 22 minutes.
Quoi ?
Par comparaison, il est estimé que fumer une cigarette réduit l'espérance de vie de 11 minutes. Autrement dit, une personne qui passe 6 heures par jour devant le petit écran risque de vivre 5 ans de moins que quelqu'un qui ne regarde pas la télévision. On doit donc hésiter à mettre un petit devant la télé, mais de nombreux médecins, en particulier les psychiatres, sont résolument contre cette façon de présenter les choses.
Oui, le mieux c'est peut-être en fait d'écouter la radio. Et la santé, c'est avec vous, docteur Jean-François Lemoine. Alors, lundi, ce sera la journée mondiale de la télévision. Et c'est aussi l'un des thèmes de votre émission Pourquoi Docteur, ce dimanche sur Europe 1 à 13h, avec cette question, donc, la télé, ami ou ennemi des médecins. Et vous avez des éléments de réponse, hein, Jean-François.
Oui, la plupart des intellectuels ont tranché depuis longtemps, d'ailleurs. La télévision abrutit les masses, un discours très à la mode qui ne prend en compte que le contenu des émissions et le temps passé devant l'écran. Certes, nous consacrons en moyenne 3h23 par jour à la télé. Ce chiffre et celui de 2010, il est en augmentation de 7 minutes par rapport à 2009, et c'est beaucoup moins que les Américains, dont effectivement on ne peut pas dire que la culture de masse soit un modèle.
Alors un monde sans télé, est-ce que c'est possible? Certains ont d'ailleurs déjà essayé, hein?
Oui, des aventuriers du monde moderne ont tenté le sevrage cathodique, c'est le cas notamment d'une école strasbourgeoise. Mmh. 250 enfants étaient les cobayes volontaires d'une expérience, 10 jours sans télé. Ils ont tenu le coup, quelques-uns seulement auraient craqué alors qu'ils allaient franchir la ligne d'arrivée. Mmh. Ils ont regardé leur feuilleton favori. Et si l'on en croit leurs parents, ils auraient davantage dormi et selon leurs enseignants, il y aurait eu un peu moins de fautes dans les dictées.
Ah oui. Alors j'imagine qu'au bout de 10 jours, les habitudes ont repris leurs droits, hein.
Oui, ils ne font pas partie des 2 à 3% de gens qui n'ont pas de télé chez eux, mais toutes les expériences de sevrage montrent que ces actions radicales permettent d'ouvrir les yeux des enfants et des parents sur des moyens de s'occuper différemment. En fait, la télé et la diététique, même combat. Un régime trop strict, c'est impossible à tenir, donc il faut apprendre à avoir une consommation de télé légère et variée.
Et Jean-François, on dit aussi que la télévision serait dangereuse carrément pour la santé.
Selon une étude australienne publiée dans le British Journal of Sport Médecine. Chaque heure passée devant le petit écran, écoutez bien, réduit notre espérance de vie de 22 minutes.
Quoi ?
Par comparaison, il est estimé que fumer une cigarette réduit l'espérance de vie de 11 minutes. Autrement dit, une personne qui passe 6 heures par jour devant le petit écran risque de vivre 5 ans de moins que quelqu'un qui ne regarde pas la télévision. On doit donc hésiter à mettre un petit devant la télé, mais de nombreux médecins, en particulier les psychiatres, sont résolument contre cette façon de présenter les choses.
Oui, le mieux c'est peut-être en fait d'écouter la radio.
This is the end of part A. Go on to part B.